Il est temps maintenant de revenir sur nos pas et de retourner vers le Big pour y découvrir l'exposition de Home et la ferme abattoir. Chapitre 2. Vers une agriculture urbaine. Si tous les acteurs de la société sont d'accord sur le fait qu'il faille radicalement mettre en place un autre modèle de production alimentaire pour produire davantage en diminuant l'impact environnemental de notre alimentation, les solutions devront être multiples et chacun devra, à sa manière, être l'acteur de la prochaine révolution agricole que nous devons inventer. Dans nos champs, la bataille d'une agriculture respectueuse de l'environnement, avec l'avènement de l'agriculture biologique et régénérative, est au centre des attentions et doit être davantage soutenue par les politiques européennes pour ne pas observer un essoufflement, voire un effondrement agricole. Mais cette bataille se joue également dans nos villes, où nouveaux agriculteurs, ingénieurs agronomes et citoyens sont en train de développer de nouvelles stratégies de production alimentaire en ville. L'agriculture urbaine. Les raisons de penser une agriculture urbaine sont simples. Aujourd'hui, près de la moitié de l'humanité, soit 4,2 milliards de personnes, vit dans les villes, et cette tendance devrait considérablement se poursuivre dans les décennies à venir. En effet, les villes concentrent les services aux populations et les possibilités d'emploi, mais elles accumulent également les consommations alimentaires et près de 70% des émissions totales des gaz à effet de serre. Ces facteurs renforcent l'intérêt de rapprocher les aliments des assiettes, de créer des emplois de proximité, de diminuer les transports de marchandises et de reconnecter les populations avec la production alimentaire dont elles ont été progressivement éloignées au cours des siècles précédents. Mais l'agriculture en ville a également un fort potentiel symbolique et novateur. Les villes sont les acteurs centraux du développement des États, car elles concentrent les administrations, les universités, les artistes, les entrepreneurs, et incarnent donc un espace de réflexion, d'expérimentation et de transition très important, connecté à un riche secteur social et culturel. Ce contexte particulier est un terreau fertile à l'émergence de nouvelles idées créatives qui doivent bénéficier à tous les citoyens. De plus, de nombreuses villes disposent de gouvernements relativement indépendants sur ces questions, connectés aux autres villes du monde. Elles possèdent souvent leurs propres politiques alimentaires, ce qui en fait des lieux où le potentiel impact de décisions politiques est important et où certains leviers d'action sont possibles. Par exemple, la maîtrise des cantines scolaires ou la maîtrise de la propriété des terrains sont des leviers intéressants pour changer substantiellement et durablement nos comportements et nos manières de produire. Néanmoins, seule l'agriculture urbaine ne sera pas suffisante pour nourrir les villes. En effet, la place disponible pour l'agriculture urbaine reste souvent problématique. Les prix des sols au mètre carré poussent les propriétaires fonciers à se tourner vers des manières plus rentables d'utiliser leurs terrains, ce qui met la pression sur l'agriculture urbaine mais aussi périurbaine, sur ce qu'on appelle la ceinture alimentaire, qui doit constamment lutter contre l'urbanisation. Ce manque de place fait que la ville n'est souvent pas adaptée à la production de céréales, d'huile, ni à l'élevage de bovins et d'ovins, et l'agriculture urbaine et périurbaine est souvent destinée à une agriculture de maraîchage. La production de fruits et de légumes, ces produits devant se manger frais et non transformés, dont le transport est plus délicat et qui doivent occuper une place centrale dans notre alimentation pour que nous restions en bonne santé. Dans cet exercice, toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. En fonction de leur climat, de leur densité de population, de la proximité et de l'état des terres disponibles en ville ou en périphérie, ainsi qu'en fonction de leurs accès à certaines technologies. Toutes les populations mondiales n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes par rapport à l'agriculture urbaine. Par exemple, les cultures maraîchères de Kinshasa au Congo produisent 65% de l'approvisionnement de la ville, ce qui n'est pas concevable dans une ville comme Bruxelles, densément bâtie et avec un climat tempéré, où les cultures sont limitées par le froid une bonne partie de l'année. Afin d'absorber la croissance de la population et lui apporter une alimentation durable et de qualité, la région de Bruxelles-Capitale a lancé en 2016 la stratégie Good Food. L'un des objectifs ambitieux de cette stratégie est que 30% de la consommation des Bruxellois en masse de fruits et légumes frais non transformés soit produit sur le territoire de la région et dans sa périphérie proche d'ici 2035. Un tel objectif devra se baser sur une ceinture alimentaire ambitieuse, surmonter les complexités institutionnelles sur des terrains appartenant aux régions flamandes et wallonnes et assurer une productivité suffisante pour concurrencer l'urbanisation. En agglomération bruxelloise, l'agriculture urbaine se développe sur les toits, dans les caves, dans les jardins partagés et les îlots centraux, où elle peut rendre aux citoyens des services complémentaires à sa fonction première, tels que la réduction de la chaleur produite en ville, la séquestration du carbone de nos émissions, la stimulation de la biodiversité et l'infiltration des eaux de pluie. Elle est portée par des professionnels de l'agronomie, capables d'exploiter les avantages de la ville grâce à de nouvelles manières de produire, mais aussi par des citoyens qui doivent progressivement participer à la résilience urbaine de leur territoire et renouer avec les sources de leur alimentation. L'exposition que vous vous apprêtez à voir vous montrera une partie du champ des possibles et vous posera la question de ce que vous pourrez faire à votre tour.